Le millefeuille revisité. Bonjour et bienvenue dans le millefeuille revisité. Vous êtes en compagnie de Christine pour une demi-heure environ. Dans notre précédent millefeuille, nous étions aux États-Unis, dans le sud exactement, aux côtés de Carson McCullers. Aujourd'hui, avec ce nouvel épisode, je vous propose de revenir en Europe avec l'auteur italien Eri De Luca et son roman « Trois chevaux ».
Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca. Considero valore il regno minerale, l'assemblea delle stelle. Considero valore il vino, finché dura il pasto, un sorriso involontario. La stanchezza di chi non si è risparmiato, e due vecchi che si amano. Considero valore quello che domani non varrà più niente e quello che oggi vale ancora poco. Considero valore tutte le ferite.
C'est donc Eri De Luca que nous venons d'entendre avec un extrait de son magnifique poème Considero valore, ou si vous préférez, J'attache de la valeur. Un poème qui pourrait, je pense, donner la plus belle approche de cet auteur si on avait très peu de temps. Mais nous allons cheminer un moment, je vous le promets, avec lui et au-delà de ce poème. Ce poème, je vous invite à le découvrir. Il est d'ailleurs mis en exergue dans le Quarto Gallimard itinéraire paru en 2023. Sans plus attendre, comme mise en bouche, découvrons le début du roman « Trois chevaux », une lecture qui nous est proposée par Antoine.
Je lis seulement des livres d'occasion. Je les pose contre la corbeille à pain, je tourne une page d'un doigt et elle reste immobile. Comme ça, je mâche et je lis. Les livres neufs sont impertinents, les feuilles ne se laissent pas tourner sagement, elles résistent et il faut appuyer pour qu'elles restent à plat. Les livres d'occasion ont le dos détendu. Les pages, une fois lues, passent sans se soulever. Ainsi, à midi, au bistrot, je m'assieds sur la même chaise. Je demande de la soupe et du vin, et je lis. Ce sont des romans de mer, des aventures de montagne, pas des histoires de ville. Je les ai déjà autour de moi. Je lève les yeux attirés par le reflet du soleil sur la vitre de la porte d'entrée par laquelle ils entrent tous les deux, elle dans un air de vent, lui dans un air de cendre. Je reviens à mon livre de mer. Il y a un peu de tempête. Force 8. Le jeune homme mange avec appétit tandis que les autres vomissent. Puis il sort sur le pont se tenant solidement sur ses pieds parce qu'il est jeune, seul, tout à la joie de la tempête. Je détourne les yeux pour couper de l'ail cru sur ma soupe. J'avale une petite gorgée d'un vin rouge âpre qui sent le fût. Je tourne des pages de cils, des bouchées lentes, puis je lève la tête du blanc du papier et de la nappe. Je suis la ligne du carrelage qui fait le tour de la pièce et qui passe derrière deux pupilles noires de femme mises sur cette ligne comme deux mi fendu de la ligne basse d'une portée musicale. Elles sont pointées sur moi. Je lève mon verre au même niveau et je le laisse en l'air avant de boire. Cet alignement force mes pommettes à ébaucher un sourire. La géométrie des choses environnantes fait naître des coïncidences, des rencontres. La femme, de face, me sourit. L'homme, de dos, intercepte le toast, tord le buste, tend d'abord le coude, le patron qui m'apporte un plat l'esquive d'un coup de rein. Avant que l'autre, énergique, termine son demi-tour, je salue la dame d'un raclement de gorge, comme si je la connaissais. Elle me répond de la même manière, tandis que l'homme me dévisage. Pendant ce temps, je bois, je remets le nez dans mon assiette, je lis et j'avale. Le bistrot se vide des ouvriers, moi je reste encore. Je n'ai pas d'heure pour reprendre mon travail. Aujourd'hui, je dois finir de tailler, de ramasser les branches. Demain, je les brûlerai. La femme se lève, s'avance et s'approche de ma table, rapide et directe. Je plisse les yeux pour regarder carrément dans son nez. Là où ses narines soufflent un peu d'air sur ses mots, j'ai changé de numéro, appelle-moi celui-ci. Et elle laisse sur la nappe un nom et des chiffres. Je mets la main dessus. Elle est assez propre, je ne m'étrille pas pour la pause de midi. Je la regarde, debout devant moi, je me lève, et pour ne pas être en reste, j'improvise à mon tour en disant « Ça me fait toujours plaisir de te voir ». Elle pose ses mains sur la mienne. « Bien le bonjour chez toi ». Je n'y manquerai pas, merci. L'autre est à la porte, elle se retourne et je me rassieds. Qu'est-ce qui me prend? Je n'y manquerai pas, merci. Empaillé que je suis, à qui le dire? Je n'ai personne. Que demande une femme magnifique à un jardinier de 50 ans, assis au fond d'un bistrot? Jamais vu auparavant, elle est jeune, et moi je reviens de 20 ans d'Amérique du Sud.
Merci Antoine pour cette belle introduction. Alors, où se trouve ce roman sur mon étagère? Eh bien, Trois chevaux et l'œuvre d'Héry De Luca se situent entre les livres de Doris Lessing et de Carson McCullers, évoqués justement dans le précédent Millefeuille. Mais si j'avais demandé à Héry De Luca auprès de quels auteurs il aurait aimé se trouver, il aurait sans doute évoqué Iset Sarajlik, le poète de Sarajevo qu'il a rencontré pendant la guerre en ex-Yougoslavie et qui deviendra son ami, mais aussi Cervantes pour Don Quichotte, ce même Quichotte qui sera pour Héry De Luca à l'origine de la création d'un spectacle, Quichotte et les Invincibles, auquel participeront Gian Maria Testa, musicien et chanteur, Gabriele Mirabassi, clarinettiste, et Héry De Luca lui-même. Ce spectacle n'est pas précisément dédié à Quichotte, mais à tous les invincibles qui sont aujourd'hui à son image, comme ces migrants qui traversent aujourd'hui la Méditerranée. Et dans les auteurs favoris d'Héry De Luca, on trouverait aussi Marina Tsvetaeva, poétesse russe, qui a écrit « Ce n'est que dans l'enthousiasme que l'être humain voit exactement le monde », et puis bien sûr Carlo Collodi, l'auteur de Pinocchio, qu'Héry De Luca considère comme le plus beau livre de la littérature italienne moderne. Revenons à l'auteur Héry De Luca. Écrivain polyglotte, ouvrier alpiniste, militant écologiste et ardent défenseur de la parole et des mots, voilà ce qu'on pourrait en dire si l'on devait résumer. Mais ce ne serait pas suffisant. Il faudrait ajouter qu'Héry De Luca se bat depuis des décennies pour préserver le vivant, redonner toute sa place à la nature et aux êtres qui la composent. Alors, reprenons plus amplement. Héry De Luca est né en 1950 à Naples dans une famille bourgeoise, ruinée par la guerre. Le napolitain est sa première langue, la langue de sa mère, et l'italien la deuxième, celle de son père. Enfant, il dort dans la chambre des livres de son père. Il lit énormément et découvre beaucoup d'auteurs étrangers car les livres n'ont pas de frontières. Il se définit comme un enfant désobéissant qui a quitté sa famille pour faire partie d'une génération d'insurgés. À 16 ans, en effet, il s'engage dans la politique puis l'action révolutionnaire avec le mouvement Lotta Continua jusqu'à sa dissolution en 1977. Il devient ensuite ouvrier dans l'industrie automobile, activité qu'il exercera pendant 20 ans et entrera en écriture une fois sa journée de travail terminée. Par la suite, il sera aussi manutentionnaire, maçon et conducteur de camion. Pendant la guerre en Yougoslavie, il conduira d'ailleurs des convois humanitaires en soutien aux Bosniaques. Depuis de nombreuses années, il se consacre quotidiennement à la lecture de la Bible tout en se reconnaissant agnostique. C'est par curiosité pour la langue hébreu qu'il s'intéresse tout d'abord à la Bible, notamment l'Ancien Testament. C'est aussi grâce à la lecture, plus précisément pour approfondir ces lectures, qu'il lit les auteurs qu'il affectionne dans leur langue. Il parle ainsi l'anglais, le français, l'espagnol, le russe et le yiddish. Et son autre grande passion, c'est la montagne. Des Alpes à l'Himalaya, en passant par les volcans de l'Équateur, il devient un alpiniste chevronné avec toujours la volonté de ne pas laisser de traces sur la montagne, grimper sans y planter un clou. C'est grâce à cette passion qu'il côtoie Nives Merua, une alpiniste italienne, première femme à avoir vaincu 10 sommets de plus de 8000 mètres. Une expédition partagée dans l'Himalaya vers un être en pleine tempête, sous la tente, une conversation qui fera l'objet d'un recueil sur la trace de Nives, paru en 2005. Pour revenir à ses débuts d'écrivain, c'est à 39 ans qu'il publie son premier texte, « Pas ici, pas maintenant »,« Non ora, non qui », sorti en français sous le titre « Une fois, un jour », où il parle de son père. Il écrira d'ailleurs plus tard « Je ne lui ai pas mis un fils dans les bras, mais un livre ». Ce thème de la filiation, on le retrouve régulièrement dans son œuvre. Dans « Grandeur nature », paru en 2023, il nous conte des histoires intimes et universelles de parents et d'enfants. Dans « Le tour de loi », paru en 2018, un écrivain voit surgir dans sa maison le fils qu'il n'a pas eu, comme Geppetto, autre père sans fils, qui s'inventait un Pinocchio. Un dialogue s'engage entre l'écrivain narrateur et ce fils imaginaire. On retiendra aussi d'Eri De Luca son engagement contre la ligne TGV Lyon-Turin qui verra naître son recueil « La parole contraire » où il évoque l'invasion d'un territoire, la montagne, et restitue l'argument principal de sa défense alors qu'il est relaxé après avoir été condamné pour incitation au sabotage. Autre forme d'engagement, son soutien et sa participation au sauvetage des migrants en Méditerranée. Il définit d'ailleurs la fraternité comme une valeur primordiale. S'il n'y a pas ce lien qui forme une communauté, alors il n'y a pas de possibilité de se battre pour la liberté et l'égalité. En 2002, il obtient le prix Femina étranger pour Montedidio, roman d'une enfance à Naples dans le quartier populaire du même nom, et en 2013, c'est le prix européen de littérature qui lui est décerné pour l'ensemble de son œuvre, qui se compose de récits, romans, poésies, chroniques, théâtre et commentaires de la Bible.
Mercato di Porta Palazzo fanno la fila, le femmine da ragazzo fanno la fila, fanno l'andazzo e si lasciano indovinare sotto le gonne e si lasciano indovinare sotto le gonne nere. E sopra il molo del caricamento fanno la coda, gli uomini da bastone fanno la coda sul cemento. E si lasciano perquisire sotto le giacche, e si lasciano perquisire sotto le giacche da ricucire. Ma una mattina di luna d'inverno e c'era la neve, sulla piazza succede un inferno e tutti a chiedersi come, dove, dalla coda del caricamento qualcuno grida, sulla piazza di Porta Palazzo fra le ragazze si rompe la fila. Ce n'è una sdraiata per terra sopra la neve che svapora, ce n'è una sdraiata per terra e tutte le altre le fanno corona. E alle 7.45 era già nato, era già fuori, alle 7.45 l'hanno posato sul banco dei fiori. Mi favoriscono un documento, dice la guardia appena che arriva, trafelata dal caricamento per vedere che succedeva. Favoriscono un documento e anche qualcosa da dichiarare, questo è un caso di sgravidamento su suolo pubblico comunale. Ma documenti non ce ne sono e neanche qualcuno che dica niente, solo solo la gente che tira e che spinge intorno i garofani e le gardenie. Documenti non ce ne sono e quasi più niente da documentare, solo che un giorno di luna d'inverno tutta la piazza ha voluto il suo fiore. Ritorna la coda dal caricamento, torna la fila, torna l'andazzo degli uomini da bastone, delle femmine da ragazzo che si lasciano perquisire sotto le giacche che si lasciano indovinare sotto le gonne nere.
C'était Gian Maria Testa che nous venons d'écouter avec Al mercato di Porta Palazzo. Gian Maria Testa, musicien et chanteur italien, était l'ami d'Eri De Luca. Selon ce dernier, un de ces rares frères que l'on peut rencontrer dans une vie. Pour ce qui est de ce roman, Trois chevaux, contrairement à ce que pourrait sous-entendre le titre, vous ne trouverez pas d'histoire de chevaux dans ce livre. Mais le récit d'un Italien revenu au pays après avoir émigré en Argentine. À travers la rencontre de cet Italien, jardinier de 50 ans, avec Laila, jeune femme dont il tombe amoureux, eh bien va renaître le passé argentin. Des histoires d'amour qui se répondent, mais aussi le récit de l'engagement de cet homme, son passé de lutte contre la dictature militaire et la mort qui peut surgir à nouveau. Trois chevaux, c'est aussi des rencontres, des amitiés, notamment celle du jardinier, avec Selim, un Africain venu chercher du travail en Italie. Dans ce récit paru en 1999, on y trouve la présence des éléments vitaux de cet auteur, à savoir les livres présents quotidiennement dans la vie du jardinier, l'évocation de la Bible, seul livre à lire au fond d'un bateau de pêche lorsque le narrateur quitte l'Argentine, la montagne avec Dvora, et tous les éléments naturels présents dans le quotidien du jardinier. La terre, les pierres, les arbres qu'il plante, le ciel, le vent et le soleil qui pèsent sur le corps. Car si c'est un livre à l'écriture sobre et poétique, c'est un récit écrit de l'intérieur qui se fait à travers le corps de ce jardinier. Comment j'ai découvert ce livre ? Eh bien, tout comme avec Carson McCullers, je pourrais parler de rencontres continuées avec Eri De Luca. C'est un cheminement ou un côtoiement qui a commencé avec Acide Arc-en-Ciel et qui s'est poursuivi au fil de son œuvre. Mes Trois chevaux est resté pour moi une étape majeure, un gîte où je reviens de temps en temps, tout comme ce poème Considero valore, j'attache de la valeur. Retrouvons à présent un deuxième extrait du roman. C'est la rencontre entre le jardinier et Selim, l'Africain. Une scène digne d'un tableau. Je pars avec l'obscurité. Au jardin, je travaille à un rythme soutenu pour avoir chaud. Je trace un sentier de pierre le long des rangées de vignes. Un homme, grand, âgé, un Africain me fait signe du portail. Je vais vers lui. Il se présente, me tend la main. Il demande comment je vais, comment va le travail. Je réponds à ce bon usage d'échanger deux mots juste avant d'entrer dans le vif du sujet. J'ignore ce qu'il a à me dire. En attendant, je le fais entrer dans la cabane à outils et je l'invite à boire un café que je prépare sur un réchaud. Il vient volontiers. Il a des dents faites pour sourire. Ici, il est manœuvre. Chez lui, il élève du bétail. Il vient souvent en Italie. Jamais pour plus d'un an, puis il rentre. Il suce quelque chose. Ce n'est pas un bonbon, c'est un noyau d'olive. Il aime les olives noires. La force de l'huile qui s'enferme dans un bois dur à ronger. Il aime le goût de l'os et il le retourne dans sa bouche jusqu'à ce qu'il soit lisse et sans saveur. « Les olives me tiennent compagnie, » dit-il. Une poignée lui fait une journée. Le café monte, gronde, parfumé dans la gorge de la cafetière. Avant de le boire, il dit une prière en remerciement. « Toi, non ? » demande-t-il. « Moi, non. » « Je prie, dit-il, devant tout ce que je porte à la bouche. Je prie pour lier le jour à son support, comme je le fais avec le roseau près du pied de tomate. Je bénis ce café de l'amitié. » Peut-être est-il plus facile pour un homme venu d'Afrique de lier terre et ciel par une ficelle. Il tient la tasse blanche dans sa paume grise de pierre. Nous buvons assis côte à côte sur le banc. Je lui dis que son italien est bon. Il répond qu'il aime la langue plus que tout le reste. « Dure vie ici, » demandai-je. « Non, bonne. Sans satisfaction du côté des hommes, mais bonne. On sort, on a envie d'échanger deux mots, dit-il, et rien. Ici, les gens ne répondent pas. Sans satisfaction, répète-t-il, mais c'est une bonne vie. J'enlève les tasses, je demande si je peux lui être utile. Oui, dit-il, et il me montre les mimosas. Ils sont à leur première floraison. Il demande d'en avoir une brassée pour les vendre au détail. J'en coupe une bonne brassée. Il est content. Il demande le prix. Rien. Il y en a tant et ça fait du bien à la plante de s'alléger. Reviens tant qu'il y en a. Il veut payer, ne pas avoir de dette. Alors tu me paieras avec une bouteille. À la fin de la floraison, nous la boirons ensemble. Il s'assied par terre. Il sort une lame robuste et se met à faire des bouquets. Puis il s'en va, noir plein de jaune, et chaque couleur brille enlacée à l'autre.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ces cris et ces larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Quand la tempête t'as su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie, la symphonie des éclairs.
Les œuvres qui résonnent pour moi avec celles de Trois Chevaux sont à la fois nombreuses et en même temps elles ne résonnent que partiellement. Le choix était donc cornélien, il aurait pu se fixer sur Sorrow pour le rapport à la nature et à la désobéissance civile, sur Marie-Hélène Lafont pour le style épuré et la prégnance de la terre dans ses textes, mais j'ai pensé aussi à Baptiste Morisot pour la juste place de l'humain, et j'en oublie. Mon choix de résonance s'est finalement arrêté sur le recueil de poésie de Cécile Coulon, Les Ronces, parce qu'elle y parle des volcans, ceux d'Auvergne, et du peu qui suffirait à faire une vie comblée dans son poème « La maison ». C'est celui que j'ai choisi de vous lire. Je voudrais simplement, j'insiste, simplement, une maison au bord d'un de ces lacs en Auvergne que je connais comme si j'étais née à l'intérieur. Dans cette maison, peu meublée, il y aurait tout de même une chambre pour Karine, une autre pour Chloé, du vin rouge, assez pour ne pas en manquer, ce qu'il faut de réserve dans le sucrier, une baignoire évidemment, des livres dans la salle de bain, un œil de bœuf que frôleraient en automne les branches des sapins. À quelques centaines de mètres, je louerais une parcelle pour ma mule, afin qu'au premier signe du printemps, nous puissions cheminer ensemble. Amuser les enfants qui ne seraient pas les miens, transporter le pain noir jusqu'à l'heure du goûter. Voilà, c'est ainsi, je voudrais simplement, j'insiste, simplement, cette maison, ce sucrier, cet âne solitaire, peut-être un chien, qui sait. Oserais-je demander, de temps en temps, une lettre de la femme que j'aime ? Oserais-je demander de temps en temps un baiser de la femme que j'aime ? Oserais-je demander de temps en temps les mains de la femme que j'aime ? Probablement pas. Probablement jamais. Une citation d'Eri De Luca. Je prends des morceaux du passé, je les détache du temps passé et je les plante autour de moi et avec moi tant que j'écris. Je fais advenir le passé une deuxième fois, sans pouvoir le changer, bien entendu, mais ça me permet de rester avec des personnes qui sont définitivement absentes. C'est ça, pour moi, l'écriture, la possibilité d'arracher ces absents de l'oubli où ils se sont cachés et les forcer à être à nouveau avec moi. Les arbres et les odeurs. On sait depuis peu d'années que les arbres communiquent entre eux, notamment nous, le grand public. Et cette connaissance, on la doit entre autres au livre de Peter Wohlleben, « La vie secrète des arbres ». Mais c'est dans les années 1970 que des chercheurs ont montré pour la première fois les capacités de communication d'une variété d'acacias de la savane africaine. Afin d'éviter de voir leurs feuilles broutées par les girafes, ces arbres sont capables d'augmenter en quelques minutes la teneur en substances toxiques de leurs feuilles. Et, chose étonnante, ils sont également capables de prévenir leurs congénères de l'imminence du danger grâce à l'émission d'un gaz, de l'éthylène en l'occurrence. Mais plus près de nous, on peut aussi constater facilement une autre manifestation du langage des arbres. C'est celle de l'odeur des pins. En effet, le parfum qui émane des pins est dû aux signaux échangés par les arbres entre eux sous forme de molécules. Alors vous y penserez à présent lorsque vous marcherez au milieu de cette odeur délicieuse. D'autant que si elle est agréable à nos narines, elle a en plus la vertu de faire baisser notre tension artérielle. Alors, pourquoi se priver ? Merci à Antoine pour sa contribution et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Millefeuille revisité, toujours sur l'autre radio.